Oui, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. À 2 semaines des votations, la rédaction de RFJ vous propose aujourd'hui d'approfondir le thème de l'objet cantonal soumis au vote. Les Jurassiens doivent se prononcer le 3 mars sur l'initiative « Un Jura au salaire décent » lancée par la jeunesse socialiste et progressiste jurassienne. Deux invités ont pris place dans le studio pour débattre de cette question. Loïc Dobler, secrétaire politique du Parti socialiste jurassien, bonjour.
Bonjour.
Et Vincent Gigandet, directeur de l'affaire ARCJU, la Fédération des entreprises romandes de l'Arc jurassien, bonjour.
Bonjour.
Alors Loïc Dobler, vous étiez président de la jeunesse socialiste et progressiste jurassienne au moment où l'initiative a été lancée en 2008. Vous en êtes un petit peu le père, si on peut dire. Qu'est-ce qui avait motivé à l'époque le lancement de cette initiative ?
Disons que le premier élément, c'était effectivement de constater que le canton du Jura avait les salaires les plus bas de Suisse avec le Tessin. Et puis, on estimait qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau-là. Le deuxième élément, c'était le fait que beaucoup d'entreprises dans le canton du Jura ne signent pas de convention collective de travail. Et là aussi, ça posait problème à nos yeux. Et puis, entre le dépôt de l'initiative et aujourd'hui, finalement, notre conviction s'est encore renforcée par la pression que la libre circulation des personnes existe. Exerce sur les salaires dans le canton du Jura, et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une réaction forte aujourd'hui, sans quoi c'est la libre circulation des personnes qui sera en péril par la suite.
Le Jura serait un peu le parent pauvre de la Suisse, selon vous, Vincent Gigandet, les Jurassiens sont effectivement plutôt mal lotis.
Mais mal lotis, on le sait depuis un certain nombre d'années que les salaires dans le Jura sont effectivement des salaires qui sont plutôt bas. Ils sont plutôt bas pour l'ensemble des salaires. Et du coup, les salaires les plus bas sont plus bas qu'ailleurs. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la question d'instaurer un salaire minimum pose un certain nombre de difficultés qui, à nos yeux, ne paraissent pas la solution que de fixer dans la loi un tel salaire.
Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais ces bas salaires, finalement, justement, est-ce que ce n'est pas dû au fait que le Jura, c'est une région périphérique, c'est une composition du tissu industriel où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, d'emplois à forte valeur ajoutée ? Est-ce que ce n'est pas simplement dû à ça ?
Bon, écoutez, les emplois qui n'ont pas de forte valeur ajoutée, ils existent dans tous les cantons. Hein. Je pense qu'il y a des domaines comme la coiffure, etc., qui existent dans tous les cantons. Des coiffeurs, sauf erreur, il doit y en avoir dans tous les cantons.
Oui, à l'inverse, peut-être que les postes à forte valeur ajoutée n'existent pas partout.
Donc, ce qui est certain, c'est que dans le canton de Neuchâtel, si on prend des exemples concrets, parce qu'il faut prendre des exemples concrets, parce que on a vu dans cette campagne que souvent on donnait des arguments sans avoir d'exemples très concrets du côté de ceux qui étaient opposés à cette initiative. Si on donne des exemples concrets, donc dans le canton de Neuchâtel, il y a 90% des entreprises qui signent une convention collective de travail qui est celle de l'horlogerie, et dans le canton du Jura, c'est 50%. Donc, effectivement, il y a peut-être de plus grandes marques dans le canton de Neuchâtel, ça je ne dis pas du tout le contraire, mais il y a aussi des sous-traitants dans le canton de Neuchâtel qui signe la convention collective de travail. Donc il n'y a pas de raison que dans le canton du Jura, ces mêmes sous-traitants ne signent pas cette convention collective de travail.
Vous avez l'impression, Vincent Gigandet, qu'effectivement, finalement, les entrepreneurs de la région ne jouent pas le jeu de ce partenariat social et puis qu'ils ont du mal à signer ces conventions ?
Mais je pense qu'ils n'ont pas plus de mal qu'ailleurs. À preuve, c'est qu'il y a peu encore, dans le domaine du carrelage, les entreprises du carrelage jurassien viennent d'adhérer à la convention collective du second œuvre, ce qui n'est par ailleurs pas le cas de leurs homologues du Jura bernois, par exemple. Donc, à titre d'exemple, on n'est pas plus réticent aux conventions collectives ici dans le Jura qu'ailleurs. Alors, on prend toujours le canton de Neuchâtel comme exemple pour dire, mais dans le canton de Neuchâtel, nous avons 90% des entreprises dans le secteur horloger qui sont conventionnées. Alors, comme l'a dit monsieur, à juste titre, monsieur Dobler, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a des marques qui existent dans le canton de Neuchâtel. Et ces marques génèrent une forte valeur ajoutée et ça ne pose pas de problème pour elles que d'adhérer à une convention collective. Dans un tissu industriel comme le nôtre, où on a des petites, voire des très petites structures de sous-traitance, il est difficile, et souvent difficile pour elles, que d'adhérer à la convention collective, si on parle de l'horlogerie, de celle de l'horlogerie, parce que c'est une convention collective qui est quand même... qui est assez lourde au niveau des charges qu'elle implique.
En même temps, c'est un secteur qui fonctionne très bien. Une année record en 2012, un début 2013 qui démarre plutôt bien. Donc comment expliquer finalement qu'un secteur qui fonctionne aussi bien en Suisse ait autant de mal à payer correctement finalement ses employés ?
Mais je vais vous dire que dans le Jura aujourd'hui, des entreprises qui ne sont pas forcément liées à une ou des marques en particulier qui boostent, eh bien ces entreprises-là sont en réduction d'horaires de travail. Ce qui marche très fort dans l'horlogerie, ce sont les marques véritablement et les entreprises qui sont liées à ces marques. Les autres entreprises de sous-traitance ont quand même quelques difficultés.
Alors, est-ce que ça passe forcément par un salaire minimum, justement, l'amélioration des conditions de travail, Loïc Dobler ?
Bon, déjà, il faut revenir sur quelques éléments que M. Génaud a évoqués. S'il ne veut pas qu'on compare avec Neuchâtel, moi, ça ne me pose pas de problème. La convention collective de l'horlogerie, c'est une convention collective qui est nationale. Le canton du Jura, c'est le canton où on a le plus bas taux de conventionnalisation de Suisse. Je prenais l'exemple de Neuchâtel parce que c'est nos voisins, mais à Genève, c'est plus conventionné. Dans le canton de Vaud, c'est plus conventionné. Et même à Schaffhouse, c'est plus conventionné. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème qu'on prenne d'autres exemples. Et puis, le deuxième élément, c'est vrai, M. Gigandet a raison quand il dit que la convention collective de travail de l'horlogerie est une bonne convention collective de travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise qui souhaite adhérer à la convention collective de l'horlogerie peut le faire par palier, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que durant plusieurs années, on adapte année par année les différentes prestations et on n'est pas obligé d'appliquer du jour au lendemain l'ensemble des prestations. Donc dire qu'il n'y a pas de possibilité et puis que c'est malgré elle que ces entreprises ne souhaitent pas jouer le jeu du partenariat social, c'est quelque peu trop facile. Donc moi, je pense vraiment qu'on a aujourd'hui un problème majeur à ce niveau-là. Et puis, je ne dis pas que notre initiative est la seule solution possible, mais simplement, aujourd'hui, c'est la seule proposition concrète qu'on a sur la table. Donc, M. Gigandet a reconnu au début de cette émission, et je m'en réjouis, qu'il y avait un problème de salaire dans le canton du Jura. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est finalement, qu'est-ce qu'on propose pour corriger cette situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le fait que, dans le canton du Jura, un horloger gagne moins qu'un horloger neuchâtelois ? Et moi, j'aimerais qu'on me donne des propositions là-dessus, et puis ensuite qu'on puisse discuter. Parce que simplement dire l'initiative que vous proposez est mauvaise, c'est un peu court et un peu facile, et je crois que les jurassiens et les jurassiennes sont en droit d'attendre un peu plus de la part de la droite de l'échiquier politique.
Alors, bien sûr, tous les secteurs sont concernés, pas seulement l'horlogerie. Il y a divers exemples qui ont été pointés du doigt récemment par Unia notamment. On voit que certains employeurs peinent quand même vraiment à jouer ce partenariat social que vous dites qui pourrait être mis à mal par cette initiative. Alors, pour ces partenaires-là, comment faire avancer les choses, Monsieur Gigandet ?
Alors, le partenariat social est basé sur un principe qui est assez simple, c'est celui de la liberté. C'est-à-dire qu'il faut négocier entre partenaires sociaux, en l'occurrence du côté syndical, de faire en sorte de faire valoir les intérêts de la convention collective vis-à-vis des employeurs, pour faire adhérer ces entreprises qui ont, en dernier sort, la possibilité ou non d'adhérer. Il n'y a pas d'obligation d'adhérer, et quand bien même certaines entreprises ne sont pas conventionnées, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles pratiquent toutes des salaires au plancher, hein, loi s'en faut.
Non mais personne n'a dit ça, mais je pense quand même qu'en tant que représentant d'une association patronale, vous vivez aussi grâce au partenariat social, donc je m'étonne un peu que vous ne fassiez pas plus la promotion de ce partenariat social, et puis j'ajoute quand même que ce n'est pas aux syndicats de convaincre les entreprises de signer des conventions collectives de travail. Les syndicats représentent les travailleurs, ils doivent convaincre les travailleurs qu'effectivement c'est dans leur intérêt d'avoir une convention collective de travail, et puis les associations patronales, elles doivent convaincre les entreprises qu'il y a un intérêt à signer une convention collective de travail. Et ça, ce rôle-là, c'est pas le syndicat qui doit le faire, c'est les associations patronales. C'est le principe du partenariat social. Vous représentez les entreprises, les syndicats représentent les travailleurs.
Alors pour répondre très concrètement à ce que l'on fait nous comme association patronale, avant que l'initiative des jeunes socialistes ait été lancée dans le Jura, on a promu auprès de tous nos membres la responsabilité sociale des entreprises. Donc, en leur expliquant, non seulement au niveau de l'adhésion des avantages qu'il y a à adhérer à une convention collective, il y a tout aussi l'aspect environnemental, sociétal, etc. Et cela, on le fait, non. Et on l'a fait en particulier, on a développé une brochure qui est assez complète en l'occurrence, et on s'attache aussi à expliquer, à informer nos membres de l'intérêt qu'elles pourraient avoir à adhérer. Ma foi, encore une fois, on vit dans un système libéral où il reste la liberté de chaque entreprise d'adhérer
Alors, ce sera l'un des objectifs, c'est d'inciter justement les entreprises à signer des conventions collectives de travail. C'est l'objectif finalement numéro un de cette initiative. Mais au cas où elle ne le ferait pas, il y aurait justement un salaire minimum qui serait fixé par branche. Est-ce qu'il n'y a pas le risque justement qu'avec un salaire minimum, il n'y ait plus tellement d'avantages à signer des conventions collectives de travail et qu'on se contente d'attribuer des salaires minimaux aux employés, Loïc Dobler ?
Alors, je pense que réduire les conventions collectives de travail à un salaire minimum, c'est bien mal connaître les conventions collectives de travail, parce que les conventions collectives de travail régissent toutes sortes d'éléments qui sont liés aux aspects du monde du travail, et pas uniquement les salaires. Si on reprend la convention collective de l'horlogerie, on a un certain nombre de semaines qui sont plus élevées de vacances, qui sont plus élevées que dans la loi, par exemple. Je pense que c'est aussi important pour les travailleuses et les travailleurs que simplement un salaire minimum. Et puis, notre initiative souhaite vraiment donner la priorité à ces conventions collectives de travail, parce que, encore une fois, et là je pense qu'on sera d'accord avec M. Gigandet, la priorité, elle doit être donnée au partenariat social avant que l'État intervienne sur quoi que ce soit en matière de droit du travail. Là-dessus, moi je suis 100% d'accord. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas jouer ce jeu du partenariat social, et c'est là qu'il faut intervenir.
Alors là, vous pensez-vous que c'est le risque, justement, M. Gigandet, qu'il y ait une sous-enchère, justement, qu'on se contente de fixer des salaires très bas, et puis qu'on se contente de ce salaire minimum sans faire davantage d'efforts, entre guillemets ? C'est le risque de cette initiative ?
Alors, c'est un des aspects négatifs de cette initiative. C'est d'autant plus que l'on sait que le salaire qui pourrait être fixé ne sera vraiment pas très élevé, hein, puisque... il y a eu des avis juridiques, même un arrêt du tribunal fédéral qui juge qu'un canton ne peut mettre en place des salaires minimums que proches de ceux qui se pratiquent au niveau des systèmes d'assurance sociale, des dettes sociales.
Ça ferait des salaires à environ combien
On est autour de 2500 francs. L'article même pourrait éventuellement aller jusqu'à 3000. Enfin voilà, c'est aux alentours de 2500 francs que ce salaire pourrait être établi au niveau cantonal. Et dès lors que l'on établit un salaire minimum à ce niveau-là, il devient tout à fait légal. Hein. Et de fait, il y a une tendance, effectivement, on ne peut pas le nier, hein, il n'y a qu'à voir autour de notre pays ce qui se passe. Hein, partout où on a instauré des minimaux légaux, les salaires tendent à ce minimum. Hein, vous regardez en France, depuis que le SMIC a été instauré, il y a 5 fois plus de salariés qui sont au SMIC qu'il n'y en avait au départ. Donc forcément qu'il y en
a... Peut-être pas 5 fois plus, mais il y en a peut-être plus.
Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont dits là auxquels il faut quand même répondre.
Voilà, parce que peut-être qu'on reviendra sur les salaires minimaux à l'étranger tout à l'heure, mais sur cette question justement des salaires qui se fixeraient autour des 2500-3000 francs, finalement c'est pire que les salaires qui sont dénoncés ces derniers temps par UNIA. Alors finalement, est-ce que c'est à ça qu'on en viendrait, Loïc Dobler ?
Bon, effectivement, alors ça serait pire que la situation actuelle dans beaucoup de branches et d'entreprises. Monsieur Gigandet a la chance de pouvoir préjuger d'éventuels futurs jugements du tribunal fédéral. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal fédéral a rendu un avis sur une initiative cantonale genevoise qui demandait un salaire minimum unique pour toutes les branches et donc pour toutes les entreprises. Là, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous, ce qu'on nous demande, c'est un salaire minimum par branche et puis un salaire minimum qui soit différent
en fonction
du fait que les entreprises soient conventionnées ou pas. Et donc, on fait preuve de proportionnalité, ce qui n'était pas le cas avec l'initiative genevoise. Et puis, nous, ce que nous proposons, c'est que ce salaire minimum soit calculé en fonction d'un pourcentage du salaire médian au niveau national de chaque branche, parce que effectivement, je pense qu'on doit tenir compte de la réalité des différentes branches, parce que encore une fois, je pense pas que dans les machines-outils on ait les mêmes marges de manœuvre que dans l'horlogerie. Donc effectivement, il faut tenir compte de la réalité économique de ces différentes branches, et c'est pour cela qu'on souhaite avoir un élément statistique, contrairement au SMIC qui est fixé par un gouvernement. Nous, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un élément statistique qui se base sur la réalité et sur des chiffres, et pas simplement sur un décret.
Alors, votre initiative, Loïc Dobler, veut aussi combattre la sous-enchère salariale liée à la situation frontalière du Jura. Une étude de l'Observatoire de l'emploi de l'Université de Genève a été publiée cette semaine. Elle conclut que, finalement, la libre circulation des personnes n'a guère mis les salaires sous pression, à l'exception des diplômés des hautes écoles. Alors, est-ce qu'il est fondé de vouloir accroître la lutte contre le dumping salarial ?
Bon, écoutez, moi, ce à quoi je me réfère, c'est la réalité du terrain. Et puis, la sous-enchère, c'est pas forcément dire que les salaires ont baissé du jour au lendemain. C'est plutôt un élément qu'on peut constater sur le long terme. Et puis, c'est aussi, surtout, la stagnation des salaires. Parce que c'est pas parce qu'un salaire ne baisse pas qu'il n'est pas victime de la sous-enchère salariale. Parce que s'il n'augmente pas avec les années, c'est aussi qu'il y a un problème de pression sur les salaires. Et puis, je crois que si on prend pas des mesures forte aujourd'hui par rapport à cette libre circulation des personnes, parce que je crois que tout le monde souhaite que cette libre circulation des personnes puisse continuer, mais simplement s'il n'y a pas des mesures qui sont prises à ce niveau-là, eh bien, il ne faudra pas s'étonner de voir une partie de la gauche rejoindre les opposants à la libre circulation des personnes. Et puis là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un autour de la table qui puisse dire que la libre circulation des personnes, si on la perd, c'est finalement un moindre mal.
Alors, il y a des entreprises qui se sont installées récemment dans le Jura, beaucoup pas très loin de la frontière, et qui ont déjà annoncé qu'elles voulaient engager jusqu'à un tiers de frontaliers. Est-ce que ce n'est pas une manière, justement, d'annoncer, entre guillemets, qu'elles vont faire pression sur les salaires des Jurassiens, Vincent Gigandet ?
Non, pas du tout, pas du tout. Il faut remettre aussi la problématique de la main-d'œuvre frontalière dans son contexte. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a une étude qui vient de paraître qui prouve que les salaires les plus bas ont augmenté avec ou en dépit de la libre circulation des personnes. Je fais partie de la commission tripartite LIPER cantonale jurassienne depuis ses débuts. Nous n'avons pas encore constaté de dumping salarial. Bon, alors, excusez-moi, monsieur, je ne vous ai jamais interrompu, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il ne faut pas non plus laisser à croire qu'avec un salaire minimum, on va pouvoir résoudre tous ces problèmes. Et de mettre en lien la problématique du dumping, dit dumping salarial lié à la main-d'œuvre frontalière, ça laisse à croire que tout ce personnel frontalier nuit au bon fonctionnement du marché du travail. Et ce n'est pas le cas, et en particulier dans le canton du Jura. Je vous rappelle quand même qu'il y a peu encore apparu dans la presse les premiers chiffres d'emploi du groupe Swatch. Donc il y a quand même 60 à 70 personnes résidentes ici du territoire jurassien qui vont trouver un emploi dans cette entreprise. Ça veut bien dire que ces personnes-là vont trouver un job, c'est fort heureux. On peut peut-être changer d'une entreprise à l'autre. Enfin bref, mais c'est des créations d'emplois qui sont là. Et naturellement que compte tenu du bassin de population et d'emplois qu'on a dans le Jura, on ne peut pas compter, si je puis me permettre cette expression, uniquement sur la main-d'œuvre résidente, parce que elle est en insuffisance, malheureusement. Moi, j'aimerais bien que toutes les entreprises puissent trouver sur place le personnel dont elles ont besoin. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Et il faut recourir à de la main-d'œuvre frontalière pour permettre à ces entreprises de répondre au volume de commandes qu'elles ont et au travail à devoir être effectué.
Alors, pour lutter contre cette sous-enchère, finalement, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de mettre des contrôles plus stricts, finalement, plutôt qu'un salaire minimum ?
Ces contrôles, ils existent à l'heure actuelle. C'est la commission tripartite qui doit veiller, effectivement, à ce qu'il n'y ait pas de pression sur les salaires. Mais le terme dumping salarial, on considère qu'il y a du dumping salarial quand des cas de sous-enchère sont avérés et répétés. Donc, déjà là, sur la définition, on a des différences qui sont considérables entre cantons sur ce que l'on considère comme du dumping salarial ou pas. Et dans le canton du Jura, on a des cantons où apparemment on est les plus laxistes en la matière. Et puis, je m'étonne un peu des propos de M. Gigandet par rapport à la commission tripartite, parce qu'apparemment, pour lui, des salaires en dessous de 3000 francs qui sont dénoncés à la commission tripartite, ça ne lui pose pas de problème. Et je sais très bien qu'il y en a eu plusieurs ces derniers mois. Et puis, je m'étonne d'autant plus qu'ils disent qu'il n'y ait aucun problème problème en la matière, puisque il semblerait que la commission tripartite envisage de proposer au gouvernement jurassien, par exemple, l'instauration d'un contrat type de travail dans la vente. Donc c'est quand même qu'on a des problèmes majeurs à ce niveau-là, et puis que M. Gigandet, qui est membre de cette commission tripartite, nous dise le contraire aujourd'hui à l'antenne, c'est quand même un peu particulier.
Mais alors, si les mesures d'accompagnement sont difficiles à mettre en place, à faire respecter, qu'est-ce qui prouve qu'avec des exigences, les exigences que cette initiative propose seront plus faciles à mettre en place et à respecter?
Mais encore une fois, parce que l'élément de pression, de sous-enchère salariale avérée et répétée, c'est quelque chose de totalement abstrait, tandis qu'un salaire de 3500 francs, soit vous êtes au-dessus, soit vous êtes en dessous, mais c'est des chiffres, et puis soit on respecte la loi, soit on ne la respecte pas, et puis c'est beaucoup plus facile à contrôler que d'avoir cet élément de sous-enchère salariale répété et avéré. Donc voilà, je pense que c'est très concret, alors que la définition actuelle ne l'est pas du tout en ce qui concerne la libre circulation des personnes.
Les nouvelles mesures que s'apprête à proposer cette commission tripartite, finalement, elles seraient suffisantes selon vous, Vincent Gigandet ?
Non, mais j'aimerais d'abord quand même répondre à M. Dobler par rapport aux accusations qui ont été, ou les affirmations qui ont été portées.
Les accusations ?
Les affirmations que vous avez portées, pardon. On ne fait pas moins de contrôles dans le Jura qu'ailleurs. On a d'ailleurs des minimaux de contrôle à devoir être respectés. Ils sont respectés. Chaque fois qu'il y a... mais absolument, vous rigolez, mais c'est la réalité. Chaque fois qu'il y a un soupçon de sous-enchère, il y a un contrôle qui est fait. Alors, n'en déplaise, enfin, ça ne paraît pas dans le grand public, mais il est arrivé effectivement que des salaires bas aient été constatés, et en discutant avec l'entreprise, soit des grilles salariales ont été mises en place, et où des relèvements de salaire ont été faits. Alors naturellement que pour les syndicats, c'est pas tellement porteur parce qu'on peut pas le mettre sur la place publique, mais il y a des adaptations qui sont faites. La commission tripartite fonctionne, et elle fait son travail tout à fait correctement, et j'ai jamais dit par ailleurs qu'on se satisfaisait de salaire bas. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que la libre circulation de la commission tripartite est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de sous-enchère salariale. Elle n'est pas là pour faire de la politique salariale. C'est pas la même chose.
Les contrats types, justement, ça pourrait se mettre en place.
Ça peut se mettre en place dans la mesure où effectivement on peut constater qu'il y ait de la sous-enchère salariale, effectivement.
Donc les associations patronales jurassiennes sont en faveur d'un contrat type de travail dans la vente dans le canton du Jura.
Mais ça, c'est à discuter en fonction d'effectivement s'il y a un constat avéré de sous-enchère salariale. C'est le préalable à la mise en place d'un contrat type de travail avec salaire minimum. C'est une des mesures qui est prévue dans le cadre des commissions tripartites cantonales.
On parlait tout à l'heure des exemples, d'autres exemples de salaires minimaux qui ont été mis en place ailleurs. Il y a notamment le canton de Neuchâtel qui a accepté en 2011 le principe d'un salaire minimum. Par contre, la loi d'application n'est pas encore mise en œuvre. Alors, est-ce que ce n'est pas la preuve finalement que le principe est difficile à mettre en place, Loïc Dobleur ?
Non, pas du tout. Je crois qu'il y a effectivement un principe qui a été décidé et instauré dans la constitution cantonale neuchâteloise. Simplement, ben, c'est vrai qu'après, il y a le travail législatif, et je crois que aussi bien M. Gigandet que moi savons que cela prend du temps. Donc là, il n'y a rien de particulier. Le canton du Jura a cette notion de salaire décent dans sa constitution depuis son entrée en souveraineté. Donc je crois qu'en la matière, on n'a pas grande leçon à donner à qui que ce soit. Et puis, je pense que voilà, le travail doit se faire à ce niveau-là, et puis que des propositions concrètes arriveront très prochainement d'après les informations que j'ai.
Alors, il y a plusieurs pays en Europe qui appliquent un salaire minimum. Alors, pourquoi ce ne serait pas faisable dans le Jura, finalement, Vincent Gigandet ?
Alors, encore une fois, on peut le faire, mais le salaire que l'on fixerait est un salaire dit social et non pas un salaire économique. Alors, sur Neuchâtel, effectivement, dans le canton de Neuchâtel, ils ont accepté qu'il y ait un salaire qui soit fixé au niveau cantonal. Dans le canton de Vaud, ça a été refusé. Sur Genève, ça a été refusé. Et si ça n'avance pas, la raison est assez simple, c'est qu'ils ne savent pas très bien comment se dépatouiller de cette affaire et fixer un salaire qui soit acceptable et qui ne seront pas contraires aux droits supérieurs. Alors certes, dans le canton du Jura, on a un article qui dit que tout citoyen a droit à un salaire décent, Mais ce qu'il y a aussi, c'est que pour pouvoir effectuer et rendre applicable cette disposition, et d'ailleurs ça figure dans le message du gouvernement aux électeurs, c'est que l'on dit que cette disposition en fait est couverte d'une réserve en disant encore faudrait-il que la Confédération n'ait pas exercé cette compétence donc de fixer des salaires, qu'un intérêt public soit menacé et qu'aucun autre moyen ne paraisse convenir. Voilà. Donc, il ne suffit pas de l'affirmer haut et fort au niveau constitutionnel, tel est le cas dans le canton du Jura, il faut encore que d'autres conditions soient respectées pour qu'on puisse effectivement l'appliquer au niveau cantonal.
Ces conditions ne sont pas respectées dans le Jura pour pouvoir le faire, finalement ?
Mais écoutez, moi, je ne suis pas juge au tribunal fédéral. Monsieur Gigandet a l'air de l'être, il a de la chance. Moi, je ne le suis pas. Donc, simplement, il y a une initiative populaire aujourd'hui qui doit être votée. Si elle est acceptée, le Parlement jurassien devra faire une loi d'application en fonction de ce qui est demandé par l'initiative. Et puis ensuite, si des personnes ou des groupes de personnes, en l'occurrence, je pense que les associations patronales, vu leur acharnement contre cette initiative, feraient recours contre une telle loi, eh bien, on verra bien ce que les tribunaux en décident. Mais aujourd'hui, dire qu'il faut refuser cette initiative parce qu'on n'est pas persuadé qu'elle puisse être appliquée, c'est quand même un peu court comme argument, ce d'autant plus que le véritable argument patronal, ce n'est pas de dire on est soucieux que cette initiative soit appliquée par la suite, c'est simplement on est contre les salaires minimaux. Donc on a le droit d'être contre les salaires minimaux, mais il faut le dire et puis il ne faut pas essayer de trouver des prétextes à gauche et à droite pour justifier sa position.
Alors on citait des exemples où les salaires minimaux existent, hein. Monsieur Gigandet a cité notamment le SMIC en France où effectivement on peut que constater que le nombre de SMICards a fortement augmenté en France. Alors est-ce qu'il y a des chances que ça marche mieux dans le Jura ?
Alors, on prend deux éléments totalement différents. Le SMIC, encore une fois, est fixé par le gouvernement français, donc c'est Paris qui décide du salaire minimum pour toute la France, pour toutes les branches et pour toutes les réalités économiques. Et puis ensuite, ce salaire peut être augmenté en fonction des échéances électorales, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur des systèmes. Et puis, j'ajoute quand même que les gouvernements français, en l'occurrence c'est un gouvernement socialiste, donc je sais aussi faire l'autocritique de mon camp politique, c'était le gouvernement socialiste qui avait favorisé l'embauche de personnes qui sont au SMIC en supprimant les charges sociales pour les entreprises. Donc, il y a quelques années, on était encore à 8% de personnes qui étaient au SMIC. 8% de personnes qui sont concernées par un salaire minimum, ça ne me paraît pas énorme. Et puis, en quelques années, on a doublé ce nombre de personnes qui sont au salaire minimum parce que des mesures ont été prises par le gouvernement français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des exemples très concrets de salaires minimaux qui sont déjà appliqués dans la région. C'est dans les conventions collectives de travail. Alors, M. Gigandet, qui s'occupe d'un certain nombre d'entreprises et de conventions collectives de travail qui ont des salaires minimaux, j'aimerais l'entendre nous dire que tous les employés qui sont sous ces conventions collectives de travail sont au salaire minimum. Est-ce que tous les peintres qui sont engagés finissent leur carrière professionnelle au salaire minimum ? Je crois pas. Je crois que les entreprises sont plus responsables que ça et savent qu'un employé qui fait du bon boulot, eh bien, il mérite une augmentation. Et je crois que c'est vraiment particulier d'avoir un secrétaire patronal qui préjuge d'intentions négatives de la part des entreprises.
Je vous laisse répondre, monsieur Gigandet.
Non, alors il existe effectivement des conventions collectives où les salaires minimaux existent, mais ce que l'on constate aussi, et notamment pour les salaires ou les personnes les moins qualifiées, c'est qu'on rechigne à engager ces personnes les moins qualifiées parce que le salaire fixé dans la convention collective est relativement élevé. Donc on préfère engager des personnes qui ont des diplômes, qui ont des formations reconnues et des compétences au salaire fixé dans la convention, plutôt que d'engager une personne qui ne serait pas forcément en titulaire d'un CFC, par exemple.
Vous voulez dire qu'avec un salaire minimum, les personnes qui n'ont pas de formation ou les jeunes qui en recherche d'emploi seraient défavorisées ?
Mais d'une certaine manière, oui, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui rechignent à engager dans des secteurs conventionnés, à engager des personnes qui ne sont pas qualifiées, alors qu'il y a un salaire minimum, parce qu'elles considèrent que le salaire qui doit être versé pour ces personnes-là ne correspond pas finalement au travail, à l'attente en tout cas de la performance et du travail fourni. On préfère plutôt engager des personnes qualifiées, ou salaire fixé dans la convention, mais au détriment des plus bas salaires conventionnés.
C'est un risque selon vous ?
Bon, je pense qu'une entreprise engage du personnel qualifié ou non en fonction du travail qu'elle a à faire, parce que il est bien clair qu'une personne qui est qualifiée a des compétences qu'une personne non qualifiée n'a pas. Sinon, il n'y aurait pas cette distinction là. Et puis il est bien clair que si une entreprise engage du personnel non qualifié pour pouvoir simplement avoir des salaires plus bas, elle risque de voir soit sa production, soit le résultat de son travail quelque peu affaibli au niveau de sa qualité. Et je crois que effectivement, au niveau de la qualification des travailleurs, il y a aussi un travail à faire dans le canton du Jura, parce que là aussi, on est un des cantons où on a le moins de personnes qui ont un certificat fédéral de capacité. Donc là aussi, il faut prendre des mesures pour que les gens puissent bénéficier de formation continue. Et je pense que là, ça sera un des rares points où on sera d'accord avec M. Gigandet. Il faut vraiment permettre aux gens de se former en formation initiale d'abord, et puis dans le cadre de formation continue par la suite, pour effectivement, d'une part, avoir des qualifications, et puis d'autre part, pour les entreprises, avoir des employés qui ont de plus larges connaissances.
Mais il paraît clair qu'une entreprise qui doit sortir un certain salaire, elle préférerait avoir quelqu'un de plus compétent peut-être que quelqu'un qui n'a pas de formation. Est-ce qu'on n'a pas le risque de mettre un petit peu des gens qui n'ont pas de formation à l'écart finalement, et puis de les sortir du marché du travail?
Non, mais je répète encore une fois, un horloger va pas faire le même travail dans une entreprise horlogère qu'une personne qui n'est pas qualifiée.
Oui, donc, mais peut-être qu'on lui donnera d'autres tâches subsidiaires, on va dire, qui ne correspondent pas à son niveau d'expérience.
Non, mais je veux dire, un horloger ne peut pas du tout avoir les mêmes missions que quelqu'un qui est ouvrier d'usine et qui n'a pas de qualification. Je veux dire, c'est juste le bon sens, puisque quelqu'un qui est ouvrier sans qualification pourra jamais monter
une montre. Donc pas de risque à ce niveau-là.
Moi, je suis pas horloger, je suis incapable de construire une montre. Je pense qu'il faut laisser ça à ceux qui sont capables de le faire. Par contre, peut-être que je pourrais remplir certaines missions que des personnes non qualifiées réalisent.
Des tâches, donc, de toute façon, qu'il faudra de toute façon laisser à des personnes qui n'ont pas forcément de qualification. Vous pensez qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là? Selon vous, M. Gigandet, est-ce que c'est vrai? Ou il y a quand même ce risque, selon vous, qu'une partie de la population soit mise de côté?
Mais à un certain niveau de salaire, il y a un risque. Ça, je pense, effectivement, s'il y a des revendications trop élevées pour des bas salaires, effectivement, il y a un risque que ces personnes-là soient mises un petit peu de côté. Ben, c'est ce qui se passe, c'est ce que je viens de vous dire, dans certaines branches aussi où il y a des salaires minimaux, même pour les bas salaires. De manière plus générale, dès le moment où on fixe un salaire minimal qui plus est sera forcément très bas, il est sûr que ces personnes-là, en tout cas, ne verront pas. Enfin, il est sûr. Bon, malheureusement, mais on peut s'attendre à ce que ce soit ce salaire-là qui soit établi pour ces personnes-là. Mais encore une fois, le principe de la fixation du salaire, il doit être, à notre sens, laisser à la responsabilité des employeurs et des partenaires sociaux de manière générale. Ce n'est pas à l'État de s'immiscer là-dedans. Donc c'est bien clair que dès le moment où on fixe un salaire, au niveau légal, les personnes, les employeurs qui seraient tentés, qui seraient incités à vouloir adhérer à des conventions collectives, l'attrait pour ces conventions collectives, il perd un peu du fait que l'élément essentiel de la convention collective, qui est quand même le salaire, est fixé par ailleurs dans une norme légale. C'est quand même ce partenariat social, c'est quand même cette liberté contractuelle entre les parties patronales, syndicales, qui a fait la réussite de ce pays, qui a fait le succès, et aussi une certaine stabilité, il faut bien le dire, une certaine stabilité politique dans ce pays. Alors de vouloir mettre ça dans la loi, de fixer des salaires dans la loi, ça discrédite, le partenariat social, et ça, c'est un élément absolument, absolument essentiel pour nous.
Un dernier mot, l'État n'a pas à s'immiscer dans la politique salariale, Loïc Debleur.
Bah écoutez, c'est ce que j'ai dit au début de cette émission. Effectivement, je pense que la priorité, elle est donnée au partenariat social. Notre initiative donne cette priorité au partenariat social, puisque toutes les entreprises qui signent une convention collective de travail avec un salaire minimum ne sont pas concernées par cette initiative. Elle laisse même la possibilité aux entreprises de se conventionner durant un délai de 2 ans. Donc vraiment, cette initiative est très gentille, entre guillemets, parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin avec des mesures beaucoup plus dures. Moi, je suis 100% d'accord avec le fait que la priorité doit être donnée au partenariat social et non à des mesures étatiques. Mais simplement, aujourd'hui, dans le canton du Jura, on constate qu'on n'arrive plus à convaincre des entreprises de signer des conventions collectives de travail et qu'on ne peut pas continuer avec une telle situation et qu'il faut donc prendre des mesures. Parce que l'enjeu de cette campagne, finalement, ce n'est pas les associations patronales, les syndicats, les partis de gauche ou les partis de droite. C'est finalement la dignité des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Et je crois que c'est finalement ça, l'objet du vote, c'est pas de savoir si une convention collective de travail est bonne avec ou sans salaire minimum, c'est vraiment la dignité des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler.
Ben on laissera nos concitoyens faire leur choix. Je rappelle que nous avions pour débattre autour de cette table Vincent Gigandet, directeur de l'affaire Arcjus, la Fédération des entreprises romandes de l'Arc jurassien, et Loïc Debleur, secrétaire politique du Parti socialiste jurassien. Merci messieurs.
Merci à vous.
Merci.